Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, c'est une pièce de théâtre pas comme les autres qui invite les spectateurs à se positionner sur des questions aussi complexes que l'état de droit, le terrorisme ou la responsabilité individuelle. Terror, c'est son nom, a été écrite avant les attentats de Paris du 13 novembre. Elle connaît un succès incroyable en Allemagne. Elle a même été adaptée sur la principale chaîne de télévision publique. L'intrigue est faussement simple. Il s'agit du procès d'un pilote de l'armée de l'air jugé pour avoir abattu un avion détourné par des terroristes qui menaçaient de s'écraser avec les 126 passagers sur un stade de football bondé. Le verdict est beaucoup plus complexe à rendre, d'autant que ce sont les spectateurs qui sont les jurés. Julien Méchaussier était pour nous à la représentation jouée au Deutsches Theater de Berlin.
Herzlich willkommen.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Avant de commencer, je vous prie d'oublier tout ce que vous avez pu lire sur cette pièce et sur son auteur. Et je vous prie de suivre avec attention les débats de ce tribunal, car c'est vous qui rendrez le verdict. Vous êtes les jurés, vous êtes les juges, vous décidez du sort de l'accusé Lars Koch.
Avec cette question qui transpire tout au long de la pièce, peut-on tuer 164 personnes pour en sauver 70 000 ? Lars Koch, officier de l'armée de l'air, décide seul, sans l'ordre de sa hiérarchie, d'abattre l'avion de la Lufthansa. À son bord, 164 passagers entre les mains de terroristes qui font cap vers le stade de l'Allianz Arena et ses 70 000 spectateurs qui assistent au match Allemagne-Angleterre. Lars Koch prend alors en chasse le vol Berlin-Munich à bord de son avion de combat, abandonné par les autorités, incapable de déclencher l'évacuation du stade et sa hiérarchie qui lui ordonne de seulement accompagner le vol de la Lufthansa. Lars Koch sacrifie les passagers pour éviter une catastrophe encore plus grande. Au bout d'une heure et demie de plaidoirie, d'invectives entre la procureure et l'avocat du pilote, de témoins, les spectateurs sont invités à sortir quelques minutes de la salle, avant de reprendre leur place en choisissant entre deux entrées barrées des mots coupables ou innocents. Et parmi les spectateurs, c'est l'indécision qui règne.
C'est un véritable dilemme, car les différents aspects sont vraiment bien mis en perspective. D'un côté, quand on vient ici, on pense déjà être sûr de sa décision. Cet homme est innocent. Mais plus la pièce avançait, plus j'entendais les arguments portant sur sa culpabilité et plus j'avais des doutes. Bien sûr, entre les 164 passagers de l'avion et les 70 000 spectateurs dans le stade, ça paraît simple de choisir. Mais ce n'est pas le seul paramètre. On ne peut pas faire reposer toute sa décision sur ce seul argument.
Und ihr Sohn. Wenn sie in dem Flugzeug gewesen wären, hätten sie auch getötet?
À travers les plaidoiries, l'auteur Ferdinand von Schirach fait ressortir le désarroi de l'état de droit face au terrorisme. En 2005, la nouvelle loi allemande sur la sécurité aérienne ouvrait la porte à la destruction en dernier recours d'un avion détourné. Une législation invalidée par la Cour constitutionnelle sur la base du premier principe édicté par la loi fondamentale, la dignité humaine est inaltérable. C'est ce principe qui a convaincu cette spectatrice de déclarer Lars Koch coupable.
J'avais déjà beaucoup réfléchi à la question avant de venir ce soir et j'en étais convaincue, cet homme est coupable. Pourtant, au cours de la pièce, j'ai failli changer d'avis à un moment précis. Lorsque l'inculpé dit que les 164 passagers n'avaient de toute façon aucune chance de survivre. Pendant une seconde, je me suis dit, oui, il a peut-être raison. Mais je reste persuadé que personne ne peut prendre une telle décision. Personne ne peut dire qui doit mourir et qui a le droit de vivre.
Célèbre avocat pénaliste, Ferdinand von Schirach a été taxé de populisme dans les médias, accusé de faire le jeu de certains partis qui crient des solutions simples à des problèmes complexes. Pour l'auteur, cependant, le verdict n'est pas le plus important, mais bien la discussion suscitée. Une fois le public revenu dans la salle, la juge vient rendre le verdict. 214 voix pour Schuldig, coupable, contre 245 pour Unschuldig, innocent. Ce soir, l'Arscore est acquitté. Un verdict qui soulage Marion, lycéenne, venue avec sa classe.
J'ai eu beaucoup de mal à prendre ma décision, mais je pense qu'au bout du compte, il a agi en toute conscience. Même si c'est très difficile de se projeter dans cette situation extrême, je pense que j'aurais agi de la même manière. Bien sûr qu'en soi, il est coupable, il a tué des gens. D'un autre côté, de par cet acte, il a aussi évité une catastrophe encore bien plus grande. Ça fait bizarre de dire ça, mais il a presque agi en héros.
La pièce est reprise dans de nombreuses villes en Allemagne, mais aussi en Europe, au Japon et sur le continent américain. Une carte sur Internet recense tous les votes. Sur plus de 200 000 spectateurs jurés, 60% ont déclaré à ce jour l'Arscore innocent.
Et pour notre chronique livre, nous retrouvons François Hesbourg qui signe aux éditions Stock « Comment perdre la guerre contre le terrorisme ?» Pour le conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, le gouvernement aurait dû tirer les leçons des attentats commis en France au sein d'une commission d'enquête nationale. La commission parlementaire n'a fait qu'un premier travail dont on n'a pas tiré les conclusions qui s'imposent. C'est donc un homme en colère qui a répondu à nos questions.
Un homme en colère et dans la foulée des attentats du 13 novembre.
De manière urgente, qu'est-ce que le gouvernement devra faire aujourd'hui et qu'il ne fait pas ?
Le gouvernement devrait d'abord lancer, pendant qu'il en est encore temps, une commission d'enquête nationale. C'est encore possible. Deuxième chose, il faut vraiment doper financièrement, humainement, le dispositif de renseignement au niveau du terrain. C'est ce qu'on appelle le renseignement de proximité. Celui-ci avait été ravagé du temps du président Sarkozy lorsqu'il avait supprimé les renseignements généraux et travaille au sommet, puisque la France est un des rares pays à ne pas avoir un centre chargé de la lutte contre le terrorisme. Les parlementaires, lorsqu'ils ont fait leur commission d'enquête, ils se sont promenés dans différents pays du monde et à chaque fois ils recevaient la question « Mais qui est en charge chez vous du contre-terrorisme ?» Et la réponse était « Il y a le ministère de l'Intérieur, et puis il y a la DGSE, puis il y a le coordinateur du renseignement à l'Élysée, et puis il y a Matignon avec les GDSN, et ainsi de suite. » On est très très en retard par rapport à nos principaux partenaires.
En raison de toutes ces failles du renseignement, est-ce que vous dites aujourd'hui on aurait peut-être pu éviter Nice, on aurait peut-être pu éviter Saint-Étienne-du-Rouvray, on aurait peut-être pu éviter d'autres attentats ?
Alors d'abord, effectivement, vous avez raison de poser la question comme vous le faites, c'est-à-dire sur la base d'attentats précis. Nice était peut-être de tous les attentats que la France a subis ces dernières années, le plus difficile à prévenir, un individu seul, pas fiché, Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors là, c'est exactement le contraire. L'un des assassins avait un bracelet électronique assigné à résidence. Mais il était tombé dans ce que le rapport de la commission d'enquête parlementaire appelait un angle mort du renseignement. Dès lors qu'il était sous la responsabilité du ministère de la Justice, les services de renseignement n'ont plus le droit de s'y intéresser.
Concernant ces fameux fichiers S, dont certains ont un bracelet électronique, comme l'auteur de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, est-ce que ces fichiers S, il faut les placer en rétention administrative, comme le réclame Nicolas Sarkozy ?
Si vous voulez avoir du renseignement, il faut que vous ayez des réseaux à suivre, à infiltrer, à connaître. Si vous mettez tous les gens que vous connaissez en prison automatiquement, vous ne connaîtrez plus personne, par définition. Et ça, c'est le renseignement et l'anticipation pour les nuls.
Qu'en est-il du renseignement sur Internet, de la traque sur Internet ? Alors, est-ce qu'on a les moyens ?
Là, la législation qui a été adoptée l'année dernière en matière d'interception de sécurité, d'interception électronique, est une excellente législation. Je suis tout à fait pour. On a la loi, je crois, qui va bien maintenant, mais il faut savoir qu'avec le développement des techniques, il va falloir faire une nouvelle loi tous les 18 mois ou tous les 2 ans.
Comme vous dites dans votre livre, s'il y a bien une chose que n'est pas le combat antiterroriste, ce n'est pas une guerre parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de fin.
Et on n'est pas dans le registre d'une guerre avec son 8 mai 45 ou son 11 novembre 1918. Et on est dans une lutte où il peut y avoir des trêves, mais il n'y a jamais vraiment de fin. Je vous rappelle qu'à Paris, pendant les années 1980, il est mort autant de personnes du fait d'actes de terrorisme que dans la période de 2006 à 2015. C'est une affaire de très 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 longue haleine.
Comment perdre la guerre contre le terrorisme de François Hesbourg aux éditions Stock. Comment enlever les signes du passé communiste et de la soumission à l'ex-URSS alors que les relations avec le voisin russe n'ont jamais été aussi distantes? C'est à ce dilemme qu'est confrontée l'Ukraine. Au cœur de ce débat, une statue haute d'une centaine de mètres, la mère patrie, qui trône au cœur de la capitale, Kiev. Difficile à déboulonner, quasi impossible à décommuniser aussi, selon la terminologie employée sur place. C'est le reportage à Kiev de Sébastien Gobert.
On ne peut pas la manquer. Sur une colline dominant le fleuve Dnipro, la mère patrie veille sur la capitale ukrainienne du haut de ses 62 mètres de métal argenté qui reluisent au soleil. Elle est montée sur un énorme piédestal et l'ensemble du complexe fait 102 mètres de haut. La mère patrie, c'est une figure féminine, aux traits très masculins, un emblème du monumentalisme soviétique. Les bras levés au ciel, elle porte un glaive dans une main et dans l'autre un bouclier. Et sur celui-ci, le blason de l'Union soviétique avec marteau et faucille. La décommunisation bat son plein en Ukraine depuis 2014, mais ses symboles restent, c'est plutôt gênant. De nombreuses voix se sont donc élevées pour que les symboles soviétiques ne dominent plus la capitale. Volodymyr Viatrovitch est le directeur de l'Institut national de la mémoire, le principal instigateur de la décommunisation.
Le monument est un exemple de l'architecture soviétique. Il doit rester en place, on ne parle plus de le démonter. Mais selon la loi sur la décommunisation, les emblèmes soviétiques, le marteau et la faucille qui se trouvent sur le bouclier doivent être démontés.
C'est plus facile à dire qu'à faire. Le glaive pèse 9 tonnes. Et le bouclier, 13 tonnes. Volodymyr Simperovitch est l'un des historiens du musée de la Seconde Guerre mondiale qui se trouve sous le monument.
Certains voulaient démonter le bouclier, mais ça déséquilibrerait tout l'ensemble, donc c'est pas possible. Le recouvrir par autre chose, comme un texte ou un écran d'image, ce serait une autre option. Décommuniser la mère patrie, ce sera fait, mais ce n'est pas facile.
Mais au-delà de l'aspect technique, se pose la question de la pertinence d'une décommunisation d'un tel monument.
C'est l'une des statues les plus hautes du monde. Son monumentalisme est pensé pour honorer la victoire soviétique durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour renforcer la place de Kiev comme ville soviétique.
Miroslava Hartmond est une chercheuse et critique d'art à Kiev. Pour elle, il est impossible d'effacer l'héritage soviétique de cette statue.
Décommuniser la statue, cela relève presque de l'absurde. La ville y perdrait un élément de son esthétique et de son héritage culturel. Je pense qu'il faut protéger le monument d'initiatives aventureuses.
Il faut dire que malgré sa physionomie toute soviétique, la statue fait le ravissement des touristes depuis des années et elle ne dérange guère les Kieviens. Pour une raison inconnue, elle regarde vers l'est. Elle n'observe donc pas l'horizon d'où les nazis étaient venus en 1941. Mais c'est le front de l'Est qu'elle scrute vers la Russie, aujourd'hui considérée comme un état agresseur. Un nouveau symbole qui parle aux Ukrainiens. En fait, ce qui semble le plus pressant, c'est de décommuniser et moderniser le musée de la Seconde Guerre mondiale en dessous du monument. Dans une atmosphère assez datée, le cheminement à travers les galeries est toujours calqué sur le narratif soviétique, de l'oppression nazie à la résistance du peuple, des souffrances imposées aux soviétiques à la victorieuse prise du Reichstag à Berlin. Volodymyr Viatrovitch, directeur de l'Institut de la mémoire.
Ce musée s'appelait auparavant le musée de la Grande Guerre patriotique, selon l'appellation soviétique. Il y avait des musées similaires dans beaucoup de villes, car les mythes de la Grande Guerre patriotique constituaient l'un des principaux instruments de pouvoir des autorités soviétiques. La mission de ces musées, c'était d'affirmer que le bien, c'était l'URSS, et le mal, c'était les nazis, sans faire de nuance. Et ce sont des fabulations qui ont survécu à la chute de l'URSS, en particulier en Russie aujourd'hui. L'Ukraine commence à se différencier de ce narratif.
Le changement de narratif, c'est le principal enjeu de la décommunisation en Ukraine. Il s'agit d'adhérer, comme le souhaite le président Petro Poroshenko, à un discours historique commun aux Européens. L'objectif semble ambitieux, mais en même temps, il est aussi plus simple que décommuniser une ville qui, de la statue de la mère patrie au réseau de métro, des façades de bâtiments au couloir des administrations, aura bien du mal à cacher son héritage soviétique.
L'aménagement des voies sur Beurge, c'est un débat assez controversé à Paris où la mairie entame la piétonnisation de la rive droite de la Seine. À Madrid, c'est un succès, cela s'appelle Madrid-Rio, 10 km ininterrompus d'espace vert le long de la rivière Manzanares, récit d'une révolution verte signée François Musso.
Depuis le XVIe siècle, on s'est moqué sans cesse du Manzanares, cette rivière au débit faible qui n'a jamais été l'objet de soins. On en riait et aussi on déplorait que Madrid soit une des rares capitales d'Europe sans fleuve digne de ce nom. Eh bien, ce n'est plus vrai. Cette révolution pour la ville s'appelle Madrid-Rio, Madrid-Rivière. Il est vrai que le Manzanares n'est pas vraiment plus grand pour autant, mais il en impose. Il y a davantage d'eau, mais surtout des ponts ont été construits, des pavés ont été posés. La rivière a désormais de la prestance et les week-ends, ce sont des milliers de familles qui viennent s'y promener. Quel contraste avec le passé, car auparavant, passait là le périphérique, la M30 comme on dit, avec son lot de bruit assourdissant de voitures et de pollution irrespirable. Désormais, c'est un poumon vert de 10 km de long, avec ses couloirs pour les vélos, ses terrains de jeu, ses 17 parcs pour enfants, ses espaces aménagés pour faire du skate, jouer au basket, au football, au handball, et j'en passe. Si bien que cette partie de Madrid, au sud-ouest, jadis connue comme une ceinture ouvrière malfamée et vilaine, s'est considérablement revalorisée. On s'arrache désormais les appartements le long de cette bande verte, silencieuse en semaine, ludique et festive le week-end. Boutiques, bars et restaurants pullulent, tout comme les ateliers d'artistes. Autre avancée conséquente pour les amoureux de la nature et des parcs, le fait que grâce au couloir vert de la rivière Manzanares, il est désormais possible de traverser tout l'ouest de la ville, du Pardo où vit la famille royale, jusqu'à Getafe, une ville dortoir du sud, sans subir les gaz d'échappement et le vrombissement des voitures et des autobus.
C'est une institution en Turquie, un vrai moment de sociabilité aussi. Le petit déjeuner à la maison, tout comme au café, se déguste longuement et copieusement à Istanbul, à Nandlaouar.
Une rue de terrasse longue à n'en plus finir où des rabatteurs interpellent des passants qui devront, s'ils se laissent convaincre, patienter dans une file. Il n'est pas 18h. Ces Turcs attablés ne boivent pas un verre après leur journée de travail. Ils prennent leur petit déjeuner sur des terrasses tellement bondées que les dizaines de tables ne semblent en former qu'une seule. Nous sommes à Beşiktaş, un quartier jeune branché du centre d'Istanbul, au paradis du Kahvaltı. Le kahvaltı, le petit déjeuner en turc, c'est une institution qui reste bien vivace, y compris dans les grandes villes. Les familles en général préfèrent le prendre à la maison et prendre le temps qu'il faut, le week-end en tout cas. Les jeunes, de plus en plus, le consomment dehors dans de petits cafés qui ne proposent rien d'autre. On s'y donne rendez-vous, c'est le lieu et le moment d'une forme de sociabilité. À la maison et en terrasse, le menu varie peu. Il est surtout salé et copieux. Tomates, concombres, olives, fromages, œufs sous toutes ses formes, parfois des pommes de terre frites, parfois un peu de viande, salam ou soujouk, saucisson de bœuf que l'on mange froid pour le premier, grillé et épicé pour le second. Du pain, tout de même, sur lequel on tartine toutes sortes de confitures pour la partie sucrée, souvent du miel et du kaimak, une crème de lait onctueuse. La liste n'est pas exhaustive, elle dépend des goûts de chacun, des ingrédients locaux et des talents de ceux qui le préparent. Le tout est arrosé abondamment de thé, autant de thé qu'il faut pour accompagner tous les plats et espérer les digérer. Si certains Turcs succombent à la mode du café au petit-déjeuner, c'est presque un oxymore. Littéralement, le mot kahvaltı signifie « sous le café », donc « avant le café ». Café turc, évidemment, qui dans la tradition vient mettre le point d'orgue à ce festin matinal et non l'accompagner.
C'est Mathieu Salabert qui assurait la réalisation de ce magazine, rediffusion de plusieurs reportages d'Accent d'Europe, à retrouver sur notre site rfi.fr et notre page Facebook. À très bientôt.